le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marsili.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
Jérémy, il y a quelques mois, La Montagne nous avait consacré un bel article et tu m'avais alors lancé une sorte de défi à Caen dans Corse Matin. Eh bien, c'est désormais chose faite puisque notre quotidien insulaire nous a consacré une belle page dans son édition du samedi 1er avril, et ce n'est pas une blague. Donc un grand merci à Corse Matin et à son journaliste, Laurent Casasoprane, pour leur intérêt pour notre podcast, et un bienvenue particulier à nos nouveaux auditeurs corses venus nous écouter par curiosité suite à ce bel article.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, nous reviendrons tout d'abord sur une question de prime abord technique, mais absolument essentielle pour le futur de l'Europe et de nos vies quotidiennes, la question de la sécurisation des sources d'approvisionnement des matières premières critiques, c'est-à-dire des matières premières indispensables à la fabrication de nos batteries électriques, de nos téléphones, des éoliennes, et sans lesquelles il n'y aura pas de transition énergétique et climatique.
Puis nous évoquerons le scrutin qui vient de se dérouler en Finlande avec la défaite de la première ministre sortante, ce qui nous amènera à parler des liens entre communication externe et politique interne.
Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine qui nous amèneront à parler tout d'abord des trois mousquetaires, puis à deux figures qui ne manquent pas non plus de panache, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon.
Bruxelles, nous avons un problème. On pourrait dire, Jérémy, l'Europe a des objectifs très ambitieux et très louables de transition verte, mais on se rend compte que nous n'avons pas, sur notre sol européen, où nous n'avons que très peu, des matériaux et des terres rares pour mettre en place cette révolution espérée. La Commission et le Parlement voulaient et veulent toujours interdire le moteur thermique et imposer le moteur électrique en 2035, mais de fait, nous importons aujourd'hui la quasi-totalité du lithium nécessaire aux batteries électriques pour ces voitures. Et on pourrait multiplier les exemples et parler de cobalt, de nickel ou des terres rares. Ce sont des marchés souvent dominés par la Chine. On est obligé d'importer la quasi-totalité de ces matériaux fondamentaux. Et là, c'est un sujet vraiment passionnant. Je sais qu'il t'intéresse beaucoup, tu le suis beaucoup, parce qu'il y a deux objectifs essentiels, à la fois de la Commission, puis au-delà de la Commission, de l'agenda européen. D'une part, la souveraineté européenne, et d'autre part, ce qu'on appelle le Green Deal. Et si ces deux objectifs apparaissent sûrement très légitimes, même si tu le sais, je suis un peu hésitant et gêné par l'expression de souveraineté européenne, on peut avoir l'impression que ces deux objectifs constituent presque des injonctions contradictoires. D'où le fait qu'après le Green Deal, dont on a déjà parlé, et la volonté de réindustrialiser l'Europe, la Commission s'attaque, et on ne peut que s'en réjouir, à un sujet clé, celui de l'approvisionnement en matériaux et terres rares, nécessaires, a priori, aux objectifs environnementaux fixés. Et donc il s'agit, c'est ça dont on veut parler ce matin, du Critical Raw Material Act, présenté récemment par la Commission.
Oui, tout à fait. Alors, tu as posé vraiment les bases du débat, mon cher Romain. La situation est qu'aujourd'hui, l'Europe veut effectivement aller vers une transition climatique, énergétique. Mais comme tu l'as rappelé, cette transition suppose un certain nombre de matières premières, de terres rares, qui sont présentes dans tous les piliers de cette transition et auxquelles, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas accès parce que beaucoup ne sont pas produites, extraites en Europe. Et parce que, soyons honnêtes aussi, on s'est occupé de cette question trop tard, là où, par exemple, la Chine travaille depuis plus de 30 ans sur son indépendance sur ces questions-là. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, il y a effectivement la question de comment tu concilies à la fois une volonté d'aller vers cette transition climatique, énergétique, mais aussi tu maintiens ton appareil industriel, ton outil industriel en Europe. L'Europe essaie de bâtir des piliers, un petit peu en urgence. On avait évoqué dans des épisodes précédents plusieurs piliers de cette transition, le plan européen par exemple sur les semi-conducteurs, ou bien la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act. Et effectivement, le 16 mars dernier, la Commission a proposé une réglementation sur les matières premières critiques. Alors, les matières premières critiques, qu'est-ce que c'est ? Tu l'as dit, c'est deux choses. C'est à la fois les terres rares, qui n'ont de rare que le nom, parce qu'en fait, elles sont présentes en grande quantité dans la croûte terrestre, mais elles sont souvent assez difficiles à extraire. Et puis, toute une série de métaux dits critiques. La Commission européenne considère aujourd'hui qu'il y a 34 métaux dits critiques pour l'Union européenne. Et donc, en fait, cet acte qui a été proposé par l'Union européenne vise effectivement à tenter de permettre à l'Union européenne de réduire cette dépendance.
Réduire cette dépendance envers des pays tiers dont on sait que l'approvisionnement n'est pas sûr dans un contexte géopolitique agité. Moi, ce qui me gêne un peu dans cette rhétorique, bien sûr, l'objectif est totalement louable, mais ce qui me gêne un peu, c'est quand on présente les énergies dites renouvelables comme des énergies vertes, c'est le mot qui est employé, presque miraculeuses, qui n'auraient, si on veut parler en termes un peu économiques, que très peu d'externalités négatives. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas d'un point de vue de la raison, parce que tout ce qui est panneaux solaires, éoliennes, batteries de véhicules électriques et autres technologies énergétiques, aussi souhaitables qu'elles puissent être à long terme, nécessitent beaucoup de minéraux, tels que l'aluminium, le cobalt, le lithium, enfin, on ne va pas tous les énumérer, et puis bon, moi, j'ai jamais été très bon dans ces matières chimiques, mais ce qui est certain, c'est que pour répondre à la demande croissante des technologies énergétiques dites propres, l'exploitation minière des minéraux pour l'énergie verte, elle va devoir s'accélérer de manière exponentielle. Et là, c'est un vrai sujet. Le choix est assez binaire. En l'état actuel de la science, il n'y a pas de solution miracle, même si la science peut très vite évoluer. Donc, soit on importe, soit on produit chez nous. Jusqu'à présent, on ne fait quasiment qu'importer. Et si on veut produire chez nous, ça veut dire creuser des mines et tout ce qui va avec, en termes de dommages pour l'environnement. Alors, que la Commission cherche à rééquilibrer, c'est là souhaitable, mais en tout cas, cela met en lumière que l'énergie verte et immaculée, ça n'existe pas, et donc maintenant, il y a des choix politiques à faire.
Alors, là où je suis d'accord, Romain, c'est qu'effectivement, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de solution miraculeuse. C'est-à-dire qu'on va vers une transition énergétique et climatique. Évidemment, moi, je pense que c'est indispensable. Je pense que, par exemple, dans le domaine automobile, il faut effectivement aller vers les véhicules électriques, mais c'est des nuances de gris, c'est-à-dire que toutes ces solutions ont leur lot d'inconvénients. Alors, revenons quand même sur la réponse de l'Union européenne, parce que ça va permettre de discuter un petit peu potentiellement des externalités négatives. Alors, l'Union européenne dit, voilà, d'ici 2030, il faut qu'on se fixe 4 objectifs. Premier objectif, il faut que au moins 10% de notre consommation de matières premières critiques soit issue de ressources exploitées dans l'Union européenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement qu'il va falloir réouvrir des mines dans l'Union européenne. Des mines de lithium, des mines de cobalt, des mines de toutes les matières premières critiques. Alors, on sait que dans le nord de l'Europe, dans des pays comme la Finlande, la Suède, on a des gisements potentiels d'un certain nombre de matières premières critiques, mais c'est aussi sur nos terres, par exemple dans l'Allier, là où j'ai grandi, il y a un projet de mine de lithium au nord du département qui est en passe d'être lancé. Il y a aussi des projets de mine de lithium au Portugal. Et là-dessus, je pense qu'il faut s'arrêter un instant. Ça pose effectivement un vrai défi à l'Union européenne, parce que d'un côté, l'Union européenne dit « je veux réduire mes émissions de gaz à effet de serre », et de l'autre, on sait très bien que les projets miniers induisent de la pollution, potentiellement de la pollution sur les nappes phréatiques. Il y aurait une réponse qui serait de dire non, là on est trop contradictoire, il ne faut pas réouvrir de mines. Et en même temps, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est ? On est dépendant d'autres pays, on est dépendant de la Chine, on est dépendant de plein de pays dans le monde. Je pense que là, le futur pour l'Union européenne, c'est de dire ok, on rouvre des mines et on met en place des projets de prospection, mais on le fait selon des standards environnementaux qui sont extrêmement élevés. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que l'Union européenne est dans une forme d'hypocrisie totale, où on envoie dans d'autres pays les matières premières à être exploitées, dans des pays où aucune norme environnementale ou en matière de droits de l'homme sont respectées. Je peux prendre l'exemple du cobalt. Aujourd'hui, à 90%, le cobalt qui est utilisé par l'industrie européenne provient de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, il y a des mines qui détruisent complètement l'environnement et où des enfants travaillent, notamment dans les mines artisanales. Donc là, il y a effectivement une question, et notamment le concept de mine responsable, qui peut être le futur pour l'Union européenne. Mais ça sera difficile, il faut être aussi lucide, qu'au niveau local, les communautés, à juste titre, vont probablement s'opposer à beaucoup de projets de mines, parce que notamment, on sait que même dans des pays comme la Finlande, aussi avancés que la Finlande ou la Suède, il y a eu dans un passé très récent des pollutions liées aux projets de mines. Juste, je reviens très rapidement sur les autres objectifs. Le deuxième objectif, c'est l'Union européenne dit, voilà, il faudra qu'on raffine 40% des matières premières d'ici 2030. Là aussi, je te donne un exemple très concret. Aujourd'hui, je te parlais du cobalt, essentiel à nos batteries électriques. 90% est extrait de la République démocratique du Congo, mais une fois qu'il est exploité, en fait, il est transporté en chemin de fer jusqu'à Durban en Afrique du Sud, envoyé en Chine, et la totalité aujourd'hui du cobalt qu'on utilise est raffinée en Chine. Et aujourd'hui, on est complètement dépendant de la Chine. Et donc l'Union européenne dit, il va falloir qu'on raffine chez nous. Mais là encore un vrai défi, parce que le raffinement des matières premières ou des terres rares, ça a des conséquences environnementales terribles. Troisièmement, et à mon avis, c'est là où il y a un vrai futur pour l'Union européenne dit au moins 15% en 2030 de notre consommation annuelle de matières premières critiques doit venir du recyclage. Alors là, c'est peut-être le vrai atout de l'Union européenne, c'est que toutes ces matières premières critiques, elles sont recyclables éternellement. Et donc, une fois que tu vas avoir ta première série de véhicules électriques du parc automobile qui vont en sortir, l'Union européenne pourra les recycler en Europe. Donc là, il y aura effectivement une voie. Et puis, quatrièmement, l'Union européenne dit il faut qu'on ne soit pas dépendant à plus de 65% sur chaque matière première critique d'un seul pays. Voilà, ça, c'est les quatre objectifs fixés par l'Union européenne.
Oui, alors j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours un hiatus, alors on verra dans ce cas-là, hein, une contradiction profonde et souvent dramatique entre l'objectif annoncé et résultat dès qu'on parle de ces sujets environnementaux et de transition. Donc on, quand je dis on, c'est une pensée dominante et très influente en Europe, on veut diminuer le nucléaire, parce que le nucléaire, pour les idéologues, est un ennemi, mais on maintient, on relance les centrales à charbon avec des conséquences pour notre santé absolument désastreuses. On veut renforcer notre souveraineté pour fabriquer des batteries électriques et des pales d'éoliennes, mais on va finalement ruiner des lieux entiers. Alors j'entends bien que l'Europe va mettre des normes absolument exceptionnelles, et tant mieux. Mais qui dit normes dit par définition un prix qui sera sûrement plus élevé. Et donc il y aura aussi des mécanismes de marché qui devront fonctionner. Donc c'est pas tout d'avoir les lieux, il faut aussi que ce soit acceptable pour le marché, sauf à décider, ce qui est un choix politique, à être prêt à payer beaucoup plus cher. Puis, il y a bien sûr des externalités positives, que je comprends bien, réindustrialiser, créer des emplois, mais la vie des populations locales doit compter tout de même. Je pense que des cultures, des réserves magnifiques, des lieux superbes, n'ont pas à être sacrifiés contre la vie des populations au nom d'une raison d'État. Donc là, c'est des choix politiques qui vont être très, très délicats, où on met le curseur entre souveraineté nécessaire, autosuffisance nécessaire, et puis respect de notre environnement et des conditions de travail. Mais là, tu vois, je pense qu'il y a aussi une question plus large qui est posée et qui est d'ailleurs très difficile à résoudre. Il y a souvent, dans certains mouvements, dans certaines volontés affichées par les écolos, quand je dis les écolos, c'est pas que les partis écologistes, c'est aussi ce qu'ils arrivent à infuser en matière d'idées, un peu un paradoxe de ces décideurs. C'est-à-dire qu'ils ne jurent que par l'environnement ou le climat, et se moque beaucoup de la nature, de la beauté du monde. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, entre parenthèses, qu'on trouve souvent les électeurs écolos dans les grandes villes, c'est-à-dire là où il n'y a pas de nature. Donc, tu prends l'exemple des éoliennes. Alors, c'est peut-être formidable d'un point de vue énergétique. Enfin, on sait bien que non, parce que aujourd'hui, ça ne produit pas assez, ça consomme des matériaux rares. Mais, quand bien même ce serait positif, on voit surtout que ça ruine des paysages. Et pire encore, des paysages marins. « Homme libre, tu chériras la mer », disait Baudelaire, ben, c'est plus difficile à chérir la mer et de s'y évader quand tu as un horizon bouché par des éoliennes. Et donc, il y a une dimension poétique et esthétique du monde qui est souvent oubliée dans cette espèce de greenwashing. Alors, tout ça, et ce débat-là qui est intéressant, montre que la solution ne passe donc pas que par des énergies vertes, mais à mon avis, et je te rassure, je ne suis pas devenu un partisan des décroissances, mais cela passe aussi par des changements plus structuraux en termes de consommation, et puis, bien évidemment, par le progrès scientifique. Mais un des aspects que je retiens aussi, qui est important, c'est le troisième, celui que tu as, dans ce que tu as évoqué, c'est-à-dire qu'un des autres aspects de l'ambition sur la matière rare, c'est aussi une sorte de chapitre un peu diplomatique. Et c'est capital, et l'Europe n'est pas la seule à réfléchir à ces sujets. Les Américains également le font beaucoup, notamment dans le cadre des montées des tensions avec la Chine, avec une véritable stratégie diplomatique en Afrique où se situent beaucoup de réserves.
Alors, juste avant de revenir sur effectivement ces aspects géopolitiques qui sont passionnants, tu as abordé un sujet qui, moi, me touche beaucoup, qui est la question, effectivement, à mon avis, de l'esthétique, quelque part. C'est-à-dire que on a tendance à penser, parfois, que parce que les gens vivent dans certaines zones économiques assez pauvres, on peut détruire leur paysage pour des raisons purement économiques et que ça ne va pas les affecter. Moi, je pense que plus ta vie est dure au quotidien, plus tu peines dans ton quotidien, plus c'est justement important de vivre dans un environnement, dans des paysages qui ne sont pas détruits par des projets d'éoliennes, par des projets divers. Donc tout ça, je le partage avec toi. Je partage également le fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est plongée dans un certain nombre de contradictions. C'est-à-dire qu'au même moment où on dit, voilà, il faut relancer le nombre de projets miniers, on met en place une législation sur la déforestation. Alors demain, qu'est-ce qui se passera si tu as des projets miniers, par exemple dans des pays comme la Finlande, où tu as des grandes réserves de forêts, qu'est-ce que tu privilégies ? Tu privilégies le maintien des forêts ou les projets miniers ? On est aussi un continent qui veut avoir une souveraineté alimentaire. Si demain, tu as des projets miniers qui empiètent sur des terres d'élevage ou sur des terres de culture, qu'est-ce que tu choisis ? Où est-ce que tu mets le curseur ? Tout ça, ça va être des questions extrêmement compliquées. Et en même temps, les chiffres sont quand même saisissants. Aujourd'hui, tu t'aperçois que la Chine, c'est 30% de la production mondiale pour au moins 8 minerais différents et 70% de la production mondiale pour 5 d'entre eux. C'est un pays qui a des stratégies d'investissement dans la plupart des pays du monde depuis maintenant plus de 2 décennies, où ils sont arrivés à contrôler les sources d'approvisionnement, que ce soit en Afrique du Sud, on parlait du Congo, mais aussi en Amérique latine, en Argentine, au Chili ou au Pérou pour le cuivre et le lithium. C'est un pays duquel on est complètement dépendant sur les capacités de raffinage. Alors oui, on peut dire ok, les éoliennes, etc. Mais quand on parle de terres rares et de matières premières critiques, c'est aussi pour tous nos appareils du quotidien. C'est aussi pour la digitalisation de notre économie. C'est pour des choses absolument fondamentales. Et donc, le problème, c'est que si aujourd'hui, on se coupe de cette révolution, on va avoir des économies qui vont plonger. C'est là où, en fait, le politique va avoir un rôle déterminant. C'est comment tu trouves le bon équilibre.
Oui, parce que, bien sûr, là, maintenant, le mot à la mode, c'est souveraineté. Bon, moi, souveraineté européenne, c'est une expression avec laquelle j'ai un vrai problème théorique. Mais disons que là, on veut parler d'autosuffisance par rapport aux ressources et aux matières premières. Là, on ne parle pas de souveraineté en tant que concept politique. Parlons simplement de meilleure indépendance, parce qu'on ne peut pas être, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour les matériaux, bien évidemment, on ne peut pas être autosuffisant nulle part, surtout pas en Europe. Donc là, j'entends très bien la volonté européenne, mais ne jetons pas non plus totalement à la poubelle les règles qui concernent le commerce international, la réalité des échanges, et les bénéfices de ces échanges et du commerce international. Le souci, c'est effectivement que nous sommes dans un contexte géopolitique tendu, qui n'est pas non plus inédit dans l'histoire. Hein. Enfin, on a quand même traversé des guerres. Enfin, si on prend rien que l'histoire du XXe siècle, je veux dire, c'était une succession de conflits. Cela n'a jamais empêché que le commerce international se poursuive avec des chocs. Pensons bien évidemment aux crises pétrolières, mais il y a quand même des vertus à l'échange, donc on ne va pas passer de tout à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies d'ensemble comparables à l'Union européenne, comme les États-Unis, qui ne rentrent pas forcément, on avait parlé de l'Inflation Reduction Act, dans des politiques imposant des objectifs démesurés en termes de transition, mais qui, en même temps, et je crois que c'est clé, mène une politique très vigoureuse, très ambitieuse, diplomatique, pour s'assurer des bons approvisionnements en Afrique et ailleurs.
Alors, permets-moi quand même de défendre l'Union européenne ici, parce que je crois qu'autant on peut reprocher à l'Union européenne pendant 30 ans d'avoir fait preuve de naïveté, et notamment, de contrairement à la Chine, de ne pas avoir une stratégie d'investissement dans un certain nombre de régions du monde. Je rappelle quand même que les États-Unis bénéficient aussi du fait que sur leur sol, ils ont beaucoup plus de ressources naturelles que nous, notamment sur les terres rares. Et donc ça, ça crée un vrai différentiel entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, justement, essaie d'un côté de mettre en place des piliers de politique industrielle qu'on vient de décrire, mais aussi de continuer de mener une politique commerciale pour diversifier ses approvisionnements. Je rappelle quand même que, par exemple, aujourd'hui, l'Union européenne a négocié un accord de libre-échange avec le Chili, et notamment parce que l'Union européenne sait très bien qu'elle a besoin d'un certain nombre de ressources, notamment cuivre, lithium, qui sont très présentes au Chili. Elle est aussi en négociation avec l'Australie, parce que l'Australie est un pays qui a des ressources de matières premières considérables, et que jusqu'à présent, c'est plutôt la Chine qui a fait main basse sur les ressources australiennes. Donc l'Union européenne essaie de jouer là-dessus. L'Union européenne essaie aussi de se dire, ok, comment est-ce qu'on pourrait bâtir des alliances avec un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, pour assurer conjointement nos approvisionnements. Donc je pense qu'il y a la volonté de l'Union européenne, mais là je te renvoie un peu aussi la balle. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de forces politiques en France ou ailleurs en Europe qui, d'un côté, se veulent les défenseurs de nos paysages, de nos environnements, à juste titre, mais sont les premiers, quand on leur parle d'accords de libre-échange, à se dresser face à eux en disant « Ah là là, le commerce est terminé, la mondialisation, c'est une honte, etc. » Non. Malheureusement, aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il faut aussi bâtir des accords commerciaux avec un certain nombre de pays si tu veux assurer tes approvisionnements. Et si tu veux réduire ta dépendance à l'égard de pays avec lesquels il y a un vrai risque géopolitique, on parle de la Chine, mais un autre pays qui produit beaucoup de matières premières critiques, c'est la Russie, par exemple. Donc je pense que là aussi, tout le monde est un petit peu face à ces contradictions.
Oui, ces forces politiques en France, ben, tu me connais, je suis contre. Il y a toujours une tradition en France totalement illibérale qui ne jure que par la terre et les paysages, la terre qui ne ment pas, hein, et puis qui est contre tout accord de libre-échange, qui veut jeter Ricardo et la théorie des avantages comparatifs à la poubelle. Ce n'est bien sûr pas mon école de pensée. Moi, je ne critique pas l'Union européenne, comme je le disais tout à l'heure en introduction, que je trouve bien que l'Union européenne se saisisse pleinement du sujet. C'est peut-être un peu tard, mais bon, il n'est jamais trop tard pour vouloir faire, sinon on serait désespéré. Mais je trouve que ce qui va suivre, c'est également d'un point de vue des libertés politiques, parce qu'il y a des peuples, bien sûr, qui habitent dans ces régions-là, notamment, ça peut paraître surprenant, mais près du cercle polaire. Voilà, ça va être difficile de tout sacrifier, mais la géopolitique et l'histoire de la géopolitique, c'est toujours une histoire pour le contrôle des ressources. Donc ça ne changera jamais. Mais tu vois, il y a des mines dont on parle en Auvergne. J'ai également vu, sur une excellente carte d'un très bon article de Politico, qui a aussi des gisements de terres rares en Corse un peu partout, notamment près des villages d'Evisa ou dans le sud-est de la Corse. Bon, voilà, j'ai pas envie, bien sûr, qu'on massacre les paysages pour ces mines-là. Donc, c'est un vrai sujet politique et c'est pour ça, je trouve qu'il est passionnant. C'est étonnant qu'on en parle si peu dans le débat parce que là, c'est quand même l'avenir de nos technologies. Il y a également un pays que tu as évoqué qui est très riche en terres rares, c'est la Finlande. Et la Finlande a des gisements significatifs qui, à ce titre, pourraient faire l'objet, comme dans le passé, de nombreuses convoitises. La Finlande, d'ailleurs, est à la frontière d'une zone de grande tension. Il y avait des élections ce week-end en Finlande, et à cette occasion, on peut le dire, une rockstar est tombée, c'est la Marine, la première ministre social-démocrate sortante, qui était arrivée au pouvoir à 34 ans. Elle était la plus jeune chef de gouvernement en Europe, et était devenue, un peu à l'instar de l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, une icône du progressisme. Et elle a perdu les élections. Si on voulait parler de cette élection aujourd'hui, ce n'est pas uniquement par passion pour la Finlande et sa vie politique trépidante, c'est aussi parce qu'elle n'est pas neutre en enseignement politique, mais surtout géopolitique. Et donc, au-delà de la déception que cette défaite pourrait créer auprès de ses fans, l'élection était une élection importante dans un pays, rappelons-le l'évidence, frontalier de la Russie et qui va rentrer dans l'OTAN.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui a été passionnant dans cette campagne en Finlande, c'est que, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire, dans un contexte de guerre en Ukraine, alors que la Finlande s'apprête à rentrer dans l'OTAN après que les parlements turcs et hongrois aient finalement ratifié sa demande d'adhésion, contrairement à la Suède, parenthèse, hein, qui est toujours dans le sas d'attente, on aurait pu penser que la campagne serait dominée par ces questions de politique étrangère. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, de la droite du spectre politique à la gauche, c'est des questions qui font absolument consensus. Aujourd'hui, le fait que la Finlande soit un pays très en avant sur le soutien à l'Ukraine, le fait qu'elle rejoigne l'OTAN alors qu'elle était dans une situation de neutralité imposée et puis héritée de l'histoire, notamment durant la guerre froide, tout ça fait aujourd'hui consensus. Et donc, en fait, ce qui a été très intéressant, c'est de voir que la campagne s'est concentrée sur des questions de politique intérieure. Et là, ça nous renvoie toujours des questions intéressantes. Par exemple, une question qui a été absolument fondamentale dans le débat en Finlande, c'est la question de la dette publique. Et c'est une question qu'on a souvent évoquée tous les deux, et on disait qu'en France, c'est vrai qu'on a un débat public où finalement on parle assez peu de cette question de la dette publique. Les Finlandais, par contraste, en parlent beaucoup, et le parti de centre-droit, notamment, reprochait à la première ministre social-démocrate Sanna Marin d'avoir laissé filer la dette publique de 65% du PIB à 73% du PIB durant la crise du Covid. Évidemment, quand nous, Français, pays avec 111% de dette publique, on écoute ça, ça nous laisse songeurs, mais je pense que ça nous amène aussi à réfléchir. Deuxième point que je trouve extrêmement intéressant, c'est aussi l'importance de la question de l'immigration et de la délinquance, l'importance que cette question a pris dans la campagne. Il y a aujourd'hui, dans le paysage politique finlandais, trois principaux partis. Il y avait le Parti social-démocrate de Sanna Marin, tu avais le Parti de centre-droit, qui est en tête, donc la coalition nationale qui est dirigée par Petteri Orpo, qui va probablement être le futur Premier ministre, ancien ministre des Finances finlandais. Et puis tu as un parti, alors qui n'est pas nouveau dans le paysage politique finlandais, qui est là depuis plus de deux décennies, qui est un parti décrit comme d'extrême droite ou de droite très conservatrice, le Parti des Finlandais, qui est un parti nationaliste, eurosceptique et anti-immigration. Et ça, c'est très intéressant parce que ce parti est arrivé second aux élections et en fait, ça nous rappelle un peu la configuration que l'on a vue en Suède. Et pourtant, La Finlande n'a pas le même niveau de délinquance, de criminalité qu'on a en Suède, mais il n'empêche que tu as des phénomènes de gangs, de criminalité dans un certain nombre de villes en Finlande qu'on n'observait pas du tout il y a 10 ans. Et qui aujourd'hui sont en progression. Et le parti des Finlandais a su jouer là-dessus. Et donc, ça montre aussi que cette question de l'immigration, y compris dans un pays comme la Finlande, qui est un pays où la plupart des indicateurs économiques sont très bons, où on dit souvent que c'est sur l'indice du bonheur le pays qui est très en avance, où l'éducation marche très très bien, etc., ben on voit que cette question cristallise quand même beaucoup de tensions.
En France, elle cristallise les tensions, mais aussi c'est parce que le débat est un peu confisqué, parce que je pense que sur l'essentiel de la stratégie, on va dire, liée ou de la politique à avoir vis-à-vis de l'immigration, je pense qu'il y a au moins 75%, 80% de la population qui est alignée. Mais bon, il y a encore beaucoup de tabous idéologiques, et aussi parce que le sujet est souvent très mal présenté, de manière assez caricaturale et extrême, d'un côté ou de l'autre. Ce qui est intéressant aussi avec Sanna Marin, c'est qu'on en avait aussi parlé, d'ailleurs dans notre podcast également, pour sa communication assez étonnante. Et il y avait quelques histoires qui nous avaient frappés.
Tout à fait. Sanna Marin, c'est quelqu'un qui a été très présent sur la scène internationale, qui était, tu l'avais rappelé, très jeune chef de gouvernement, assez charismatique, qui a plutôt bien géré la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, même les oppositions le reconnaissent. Elle a aussi plutôt bien géré la crise du Covid. Elle bénéficie d'ailleurs d'un taux de popularité qui ferait rêver n'importe quel président de la République en France. Je rappelle que parmi les Finlandais, elle est à 64% de taux de popularité. Son parti, le SPD, étant en revanche à peu près 20% dans les intentions de vote. Il y avait effectivement ce contraste. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les Finlandais ont fait la distinction entre l'image à l'international que projetait Sanna Marin et son bilan qu'il jugeait sur le plan national de manière un petit peu plus dure. Et puis, je trouve que ça rappelle aussi une question qui est intéressante, qui est la question en fait, du positionnement des partis sociodémocrates aujourd'hui en Europe du Nord. Les partis sociodémocrates ont longtemps dominé complètement la vie politique dans les pays d'Europe du Nord. Ils faisaient très souvent 40% aux élections, que ce soit en Suède, en Finlande, au Danemark. Aujourd'hui, le Parti social-démocrate, et donc Sanna Marin, s'était un peu vu comme la candidate des bobos, c'est-à-dire des élites urbaines qui sont très attachées effectivement aux questions internationales, mais sur le fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les classes populaires en Finlande ne votent plus pour les sociodémocrates, mais comme en Suède, ils votent de plus en plus pour les partis très à droite, en l'occurrence le parti des Finlandais. Et donc ça pose aussi, on s'aperçoit que la question de la social-démocratie n'est pas simplement une question qui aujourd'hui est présente en France ou dans les pays d'Europe du Sud, mais aussi dans les pays d'Europe du Nord. La social-démocratie est un petit peu en crise, elle peine à se réinventer. D'un côté, elle veut maintenir des états-providence très forts, mais de l'autre, elle a du mal à se positionner sur les sujets d'identité, sur les sujets d'immigration, sur les sujets de criminalité. Et à l'inverse, elle est souvent vue ou décrite comme étant un petit peu soutenant parfois certaines tendances wokistes, etc. Et donc, on retrouve en fait ces débats en Europe du Nord qu'on a chez nous. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant.
Oui, alors tu as dit que c'était une icône des villes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des phénomènes de popularité transnationale auprès de ces élites urbaines et mondialisées. Et là, on se trouve parfois, alors je vais être un peu caustique, mais on se trouve parfois en face de personnes qui seraient totalement incapables de citer le nom de leurs députés, et qui ne vont d'ailleurs souvent pas forcément voter aux élections, mais qui vont s'enthousiasmer pour la première ministre de Tanzanie du Sud, qui a pris une belle mesure sociétale, ou alors qui, à l'inverse, vont s'offusquer pour une décision contestable de la Cour suprême américaine, comme si elle est touchée directement. Donc, au-delà de la petite moquerie, il y a une conscience politique mondiale qui peut créer une popularité internationale auprès de certains publics, mais qui ne se traduit pas nécessairement par une popularité locale.
Il y a deux choses assez intéressantes. D'abord, c'est que la popularité internationale peut parfois empêcher un leader de se souvenir qu'il doit d'abord créer un lien avec ses propres électeurs. Et je parlais de la question de la dette publique. Pourquoi c'est une question qui est si importante en Finlande ? Et c'est très intéressant. La Finlande, c'est un pays qui est profondément attaché à son indépendance, de par leur histoire, de par les tentatives d'invasion, notamment soviétique, de par cette histoire très mouvementée, notamment par rapport à la Russie. Et donc, pour eux, la question des finances publiques, c'est une question de souveraineté, c'est une question d'indépendance. Et en fait, ne pas maintenir une bonne situation des finances publiques, en faisant cela, ben, Sanna Marine n'a pas compris qu'elle rompait un lien en fait, avec une grande partie de son électorat qui est très attaché à son indépendance. Et puis, deuxièmement, à l'inverse, tu as eu, alors il y a quelques semaines, une élection qui a été très peu commentée dans l'Union européenne, et pourtant, où tu avais une autre forme d'icône internationale, Kaja Kallas, la première ministre estonienne, qui est une première ministre libérale, qui a aussi été sur le devant de la scène sur la guerre en Ukraine, qui est celle qui a contribué à ce que son pays soit aujourd'hui le pays qui, en pourcentage de son PIB, apporte le plus d'aide à l'Ukraine, première ministre très forte. Bien, elle a su, à l'inverse de Sanna Marine, faire concilier cette image internationale avec une politique très rigoureuse sur le plan interne qui fait qu'elle a gagné de manière triomphale les élections. Elle a gagné plus de 30% des voix. Elle s'impose comme la figure politique très forte en Estonie, notamment dans un paysage politique beaucoup plus difficile parce qu'elle était face à des partis dont certains étaient très ambigus à l'égard de la Russie. Je rappelle qu'il y a une minorité russe assez importante en Estonie. Et je rappelle que le principal parti d'opposition est créé. On s'est aperçu quelques semaines avant les élections qu'il bénéficie de manœuvres qui étaient soutenues en sous-main par Prigogine, l'homme qui est derrière Wagner et qui utilisait ses trolls pour soutenir ce parti face à Kaja Kallas. Mais à Kaja Kallas, on en a très peu parlé, mais elle a été réélue triomphalement. Donc là, on avait l'exemple d'une femme brillante, charismatique, qui arrivait à recréer le lien entre projection sur la scène internationale et réponse aux aspirations de ses électeurs.
Oui, Kaja Kallas, c'est admirable pour les raisons que tu as évoquées. Mais on en parle moins, voilà, peut-être parce qu'elle est libérale, elle n'est pas social-démocrate. Mais bon, fermons la parenthèse. Mais elle est remarquable et elle est aussi remarquable par sa tenue et par sa communication. Et là, je crois que si on veut revenir un peu sur notre conversation de la semaine dernière avec Clément Leonarduzzi, moi j'avais un petit désaccord avec lui parce que je pense qu'un chef de gouvernement, mais cela vaut encore plus, bien sûr, pour un chef d'État, n'a pas à parler à telle ou telle cible, n'a pas à viser spécialement les jeunes en adoptant telle ou telle posture. Il doit incarner l'État. Et le pays, ben en l'occurrence, si on parle de la France, c'est nous, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est les vivants, c'est les morts, c'est ceux qui vont arriver. Et là, je crois que, notamment dans une période comme la nôtre, de tension internationale, il y a un grand besoin, ben revenons au classique, hein, de dignitas et de gravitas. Parce que quand on est chef d'État, on ne représente pas uniquement sa voix, son image, mais tout un peuple, toute une histoire. Et donc, se filmer à moitié bourré, si on parlait de Sanna Marine, mais faire des vidéos légères avec des influenceurs, faire une interview, pif gadget, parader en boîte de nuit, moi, je pense que ça ne participe pas de cette gravitas nécessaire, et je ne parle même pas de poser dans un magazine de charme avec un drapeau français. Donc voilà, heureusement, ce n'est pas un chef d'État. Mais bon, donc bien évidemment, il y a une tactique politique, faire cool, parler à des audiences qui ne suivent pas nécessairement la politique, en tout cas pas sur les canaux traditionnels, ça se comprend notamment et surtout dans l'exercice particulier de la conquête du pouvoir, mais lorsqu'on représente le pouvoir, on doit l'incarner, il faut le respecter, s'en montrer digne et grave, notamment dans ce contexte. Et tu vois, si je dis ça, c'est pas du tout par moralisme ou par volonté de s'appuyer sur des principes. Je dis ça parce que dans une optique qu'on pourrait qualifier de pascalienne, c'est l'imagination qui fait le monde. Et le pouvoir, c'est avant tout l'apparence du pouvoir. Et lorsqu'on sape cette apparence du pouvoir, ben en fait, on ne fait pas d'autre chose que de saper les fondamentaux du pouvoir. Et là, cela devient dangereux pour l'ordre politique de la société. Alors, j'extrapole peut-être un tout petit peu pour Sanna Marine. Je sais que ce n'est pas ça qui lui a fait perdre l'élection. Tu l'as rappelé, ce sont des problématiques aussi économiques et liées à l'insécurité. Mais je crois que ça participe toujours un tout petit peu, notamment parce que cela la coupe d'une base qu'on pourrait qualifier de populaire, qui a le bon sens de voir que le pouvoir, c'est quand même un exercice grave et sérieux.
Mon cher Romain, tu parlais d'incarnation du pouvoir. Un homme qui, en son temps, incarna le pouvoir, il incarne encore aujourd'hui, quelque part dans notre imaginaire collectif, c'est Richelieu. Richelieu, personnage utilisé, presque diabolisé, dans une œuvre dont tu voulais nous parler aujourd'hui, Les Trois Mousquetaires. Et donc, je te laisse nous évoquer cette œuvre.
C'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai eu la chance de voir en avant-première le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan qui sort en salle aujourd'hui, enfin ce mercredi. Et je dois te dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors certes, cette adaptation cinématographique prend quelques libertés scénaristiques, toujours un peu dommageables à mon sens, avec le roman d'Alexandre Dumas, mais l'esprit de l'œuvre, ce qui est l'essentiel, est tout de même excellemment restitué, et ce qui en fait un film réjouissant, agréable, très bien interprété, et on ne s'ennuie pas une demi-seconde. On en ressort avec l'envie de voir très vite, dans quelques mois, le second volet, parce qu'il va avoir une suite, et de se replonger aussi dans le livre. Mais surtout, on en ressort avec une certaine joie, je devrais dire, une certaine reconnaissance, voire une admiration pour ce qui fait aussi, même de manière romancée, magnifiée, un certain esprit français. Et cette histoire des mousquetaires, c'est typiquement le genre d'épopée qui nous élève. C'est à la fois intelligent, passionnant d'un point de vue historique et politique, mais aussi d'un point de vue moral, je vais encore employer ce gros mot, et je l'emploie parce qu'il y a tout de même, dans cette œuvre et dans ce film que l'on retrouve très bien au cinéma, un souffle héroïque et de liberté chez les trois mousquetaires. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Alors, il met, bien sûr, on connaît tous l'histoire, il met en avant de belles valeurs, telles que l'amitié, la loyauté, l'honneur, et cela fait vraiment plaisir de voir ces valeurs à l'écran, surtout en comparaison avec les séries et les films des plateformes, et je pense à une plateforme en particulier, qui surjoue trop souvent le cynisme, le relativisme, voire un certain nihilisme. Et ça, je trouve que ça fait tout simplement du bien de voir célébrer de temps en temps la grandeur, l'héroïsme, la liberté, parce que cet esprit de liberté est omniprésent dans le film. Alors, il se perçoit bien sûr avec le magnifique sens du panache des principaux héros, qui se manifestent dans chacun d'eux, de manière très différente, mais on retrouve toujours un comportement flamboyant, courageux, élégant, associé à une noblesse d'âme. Tu vois, j'ai mentionné très rapidement Pascal tout à l'heure. D'un point de vue pascalien, D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis ne sont pas des demi-habiles. Ils respectent les grandeurs d'établissement. Ils ont bien compris que leur roi, avec tout respect pour le roi Louis XIII, mais n'est pas totalement fut-fut, mais ils se mettent totalement à son service parce qu'il représente la France. Et lui sont donc d'une loyauté totale. Et c'est justement parce que ces quatre héros sont profondément rebelles et indépendants qu'ils peuvent se permettre cette loyauté et cette fidélité. Et c'est d'ailleurs sûrement le plus haut degré de liberté intérieure, en tout cas. Une liberté consciente, enthousiaste, fidèle, qui respecte l'ordre du monde. Et ça, je trouve ça très beau. On pourrait également parler de l'esprit de distinction de ces héros qui est également très bel à voir, avec des causes nobles, le sacrifice, l'humilité. Alors voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, bien évidemment, pour le Parisien d'adoption, que je suis un tout petit peu tout de même, on regrettera que le film, comparativement au roman, ne raconte pas assez, on va dire, la montée sur Paris du héros, du Gascon, d'Artagnan, ni ne montre, et là je vais être encore plus chauvin localement, suffisamment mon quartier, celui de Saint-Sulpice, qui pourtant dans le roman occupe une place absolument majeure, mais là on le voit pas trop. On va pas en vouloir au réalisateur Martin Bourboulon, ni au scénariste Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, parce que déjà il était difficile de condenser et de transposer tout ceci, toute cette grande œuvre, même en deux volets, et on les remerciera au contraire pour cette belle œuvre de cinéma populaire, positif, et je trouve porteur, à la suite du roman de Dumas, d'un esprit français dont on se dit qu'il n'a pas pu totalement quand même se perdre et qu'il mérite donc d'être retrouvé, préservé et transmis. Et je crois qu'aujourd'hui, nos coups de cœur sont assez proches parce que toi aussi, tu vas célébrer de manière différente et avec d'autres auteurs un esprit français fait de panache et d'engagement.
Tout à fait. Je crois que ces mots s'appliquent parfaitement aux deux personnages principaux de cette biographie croisée qu'écrit Dominique Bonnat et qui est intitulée Les Partisans et qu'elle consacre à Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon. Alors, d'abord un mot sur Dominique Bonnat. Dominique Bonnat, c'est une académicienne. C'est la huitième femme immortelle depuis la création de l'Académie française en 1635. C'est une romancière, mais c'est aussi une biographe exceptionnelle. Elle a écrit des très, très belles biographies de Romain Gary, notamment lorsqu'elle était très jeune. Elle lui avait consacré une très belle biographie. Stéphane Zweig. Et puis, elle s'est beaucoup intéressée aussi à des personnages féminins. Berthe Morisot, Clara Malraux, Colette, auquel elle avait consacré une très belle biographie. Et dans ce texte, cette biographie croisée, elle revient sur la relation qui unit deux hommes, alors deux personnages éminemment romanesques, Joseph Kessel, qui n'est plus à présenter, et son neveu, Maurice Druon. Alors Maurice Druon, c'était le fils de Lazare Kessel, qui était le petit frère comédien de génie de Joseph Kessel, qui s'était suicidé. Et donc le petit Druon n'a quasiment jamais connu son père. Hein. Il a d'ailleurs changé trois fois de nom jusqu'à l'âge de 10 ans, être adopté par un notable du Nord, René Druon, qui deviendra son véritable père. Et Kessel va être cet oncle qui, pendant toute son enfance, le fait rêver, il le croise parfois. Kessel revient de ses reportages. Kessel, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, une icône absolue. Dès qu'il publie un article, les tirages des plus grands journaux augmentent. Mais Kessel s'intéresse vraiment à Druon quand il a 18 ans, quand il devient un jeune homme. Il aime le panache, la prestance de Druon. Déjà jeune homme, il porte beau, Druon. Il est très élégant, il n'hésite pas à parler fort. Il partage les ambitions littéraires de son oncle. Et donc, c'est une fraternité humaine, une fraternité de combat durant la Seconde Guerre mondiale, qui va naître entre les deux hommes, notamment lorsqu'ils vont fuir ensemble la France, accompagnés d'une femme. Et je pense que c'est un peu la troisième personnage de cette biographie, Germaine Sablon, qui était une grande chanteuse à l'époque, maîtresse de Kessel. Il a eu de nombreuses maîtresses, Joseph Kessel, et qui va être aussi une immense résistante, très grande résistante, qui va partir avec eux d'abord à Lisbonne, puis à Londres. Et puis fraternité littéraire, puisque les deux hommes vont travailler ensemble. Ils vont notamment, et ils sont connus pour cela, et le titre « Les partisans » fait référence évidemment au chant des partisans que les deux hommes rédigent en 1943 sur un air russe d'Anna Marley, auquel il faut rendre hommage. Et mais Germaine Sablon était aussi présente à leur côté lorsqu'ils ont rédigé ce chant qui va devenir le chant de la résistance. Et donc ensuite, on va suivre le parcours de ces deux hommes. Alors, parcours qui va parfois plus ou moins se séparer, parce que notamment la femme irlandaise, Michelle O'Brien, de Kessel, va un peu contribuer à séparer les deux hommes, mais il y aura toujours une profonde affection. Les succès littéraires immenses de Druon vont pas créer de jalousie, parce que pendant très longtemps, les grands tirages étaient ceux de Kessel, hein, avec ses romans à succès, mais avec Les Rois Maudits. Évidemment, Druon va battre tous les records. Lui qui se voulait d'ailleurs le Michel-Ange de la littérature, avec son atelier d'écriture, qui était notamment mené de main de maître par une autre figure romanesque, qui fut d'ailleurs une de ses maîtresses, Edmond de Charleroux. Et puis, selon la belle figure de Paul Morand, Maurice Druon va s'engager en politique, il deviendra le Malraux de Pompidou. Ce sont ces parcours très romanesques que l'on suit. Alors, c'est une biographie magnifique, parce qu'au-delà de revenir sur ces deux personnages, elle nous plonge dans des époques incroyables et dans des lieux fascinants. Par exemple, le Londres de la Seconde Guerre mondiale, c'est un Londres où il y a à la fois la tragédie en permanence qui est présente, les bombardements, la mort, mais en même temps une soif de vivre incroyable qui s'exprime d'ailleurs dans des fêtes permanentes et surtout des figures. Alors on voit les intrigues aussi qui minent la résistance de l'intérieur, mais on voit aussi des figures et des hommes pour qui l'engagement n'est pas un vain mot. Tu croises des figures assez extraordinaires dans ce Londres de la résistance, mais aussi tu vois des figures qui sont aujourd'hui oubliées. Je pense à un Diego Brossé, résistant absolument extraordinaire, qui mourra de manière tragique durant la Seconde Guerre mondiale. Mais on retrouve des figures absolument fabuleuses. Et donc, c'est aussi, tu parlais tout à l'heure d'un esprit français, c'est aussi tous ces personnages secondaires qui peuplent cette biographie, qui incarnent cet esprit français, qui incarnent une soif de vie, des époques où finalement, on vivait plus intensément, tout simplement, où on assumait d'avoir une vie romanesque, on assumait d'avoir des vies pétries de contradictions. Druon et Kessel, c'est des hommes qui ont suscité des passions, qui ont parfois suscité des haines. Druon, c'est quelqu'un qui refusait pas de rentrer dans des polémiques, qui notamment pour défendre la langue française était prêt à toutes les joutes verbales. Mais c'est des personnages incroyablement attachants et Dominique Bonnat leur consacre une très belle biographie croisée.
On continuera de non pas d'entendre les cris sourds du pays qu'on enchaîne, mais regarder et analyser l'actualité non pas la semaine prochaine, parce qu'on va faire une petite pause pascale. Et donc on n'enregistrera pas autour de Pâques, mais nous reviendrons dans 15 jours, donc dans 2 semaines Jérémy, et à très bientôt à tous nos auditeurs.
À bientôt Romain.